Vous écoutez RTL.
Et tout de suite dans la curiosité des noms propres qui deviennent des noms communs. Bonjour Frédéric Gersal.
Bonjour. À tous les deux.
Ravi de vous accueillir. Oui, merci. Au micro de la curiosité, vous êtes journaliste, bien sûr, chroniqueur histoire sur France 2. Ils sont nombreux dans la langue française, ces mots, ces noms de famille qui deviennent des mots de tous les jours.
Ah oui, il y en a beaucoup. Alors il y en a des gays, puis il y en a des plus tristes. Hein. Alors, on vous avait évoqué quelques-uns, mais je pense à Guillotin, par exemple, qui n'est pas très drôle, qui n'a pas souhaité forcément que son nom devienne un nom commun. Ça aussi, c'est surprenant.
Et on n'a pas le choix, on n'a pas son mot à dire.
Voilà, c'est surtout que là, c'est post-mortem. Donc là, il n'y avait vraiment plus son mot à dire. Et puis, il y a de Macadam, par exemple, John Macadam, sur lequel on marche tous les jours, quotidiennement.
Et bien, vous nous lisez quelques autres encore
Ah, mais écoutez, ce n'est pas ce qui manque, hein, parce qu'il y a Samuel Colt, il y a rugby, il y a saxophone. C'est M. Sax, qui est un Belge d'origine, qui va imaginer un nouvel instrument de musique. Bref, Strass, évidemment, ce que l'on aime porter quand on veut plaire, ça aussi, c'est un
c'est une
monsieur,
madame ou un monsieur,
monsieur Strass.
Ah, bah tiens.
Ouais,
monsieur
Strass.
Ouais, alors, on a un monsieur Poubelle, un monsieur Jacuzzi, une madame Melba et un monsieur Silhouette qui vont faire leur entrée dans le studio de la curiosité sur RTL. On vous les présente, restez avec nous.
RTL. La curiosité est un vilain défaut. Rudolf Diesel a inventé un moteur qui fait tourner le monde.
RTL.
Le système Braille a pris une telle importance dans le monde que dès l'année 1895, le nom de son inventeur était orthographié comme un nom commun dans la plupart des dictionnaires.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Des noms propres qui deviennent communs, une postérité heureuse ou parfois malheureuse, c'est ce qu'on découvre avec le journaliste Frédéric Gersal. Alors on a l'habitude de dire qu'en France on est un peu chauvin, c'est pour ça que j'avais envie de commencer par ce nom commun, chauvin. Vous nous rappelez déjà sa définition ?
Oh bah écoutez, c'est être cocorico quoi. Défendre ses couleurs, défendre son pays.
Alors justement, à l'origine, un monsieur ou une madame Chauvin ?
Non, alors un monsieur, monsieur Nicolas Chauvin, figurez-vous, un grognard de l'empereur.
Ah
c'est
oui ?
Ce qu'on appelait un vieux de la vieille, parce que c'était un vieux grognard de la vieille garde. Donc c'est ça le surnom de vieux de la vieille. Il a suivi Napoléon partout. Il a fait toutes les campagnes, 17 campagnes, il a eu des blessures absolument partout. Il a perdu 3 doigts, il avait un front très marqué par les combats. Et il s'est battu jusqu'au bout. Il est resté auprès de l'empereur jusqu'au dernier moment.
Mais oui, c'est un fidèle parmi les fidèles. Ouais, parce que même après les défaites, la destitution de Napoléon, d'une certaine façon, il est encore là. À quel moment particulier de la vie de Napoléon ?
Alors, si vous voulez, il a abdiqué 2 fois, Napoléon. Ouais. Il abdique en 1814. Il part sur l'île d'Elbe. Il revient pour 100 jours. Mm-hmm. Et voilà la fin des 100 jours. Il re-signe une nouvelle abdication. Cette fois, il doit partir pour Sainte-Hélène. Et là, il va jusque sur la côte d'Aquitaine, si je puis dire, en tout cas de l'Atlantique. Il arrive à Rochefort, il doit aller sur l'île d'Aix avant de partir vers l'Angleterre, puis Sainte-Hélène. Et là, qui est là ? Qui est là à Rochefort, à dormir devant sa porte de chambre ? Eh bien, c'est le grognard Nicolas Chauvin.
Alors comment Nicolas Chauvin, comment ce nom de famille Chauvin devient un nom, un mot qu'on utilise tous les jours, un adjectif qui nous qualifie quand on est cocorico ?
Alors c'est vrai que c'est surprenant parce que ça vient d'une pièce écrite par les frères Coignard, en 1831, où il parle, mais non pas de Nicolas, mais il parle d'un Jean Chauvin, très curieusement. C'est là où il y a un petit...
Zut, il y a eu la perdition du prénom, là.
Il y a un petit bémol, mais vous savez, c'est toujours pareil. Ce sont des histoires qui se racontent de bouche à oreille. Et puis ça devient une œuvre d'art. Donc c'est un petit peu compliqué.
Mais oui, donc ce qu'on comprend bien grâce à vous, Frédéric Gersal, c'est qu'on décide pas que son nom devienne rentre dans le langage courant et devienne un nom commun. Et là, on va parler d'un mot qui nous fait du bien. On se sent tout de suite beaucoup plus détendu quand on le prononce.
Allez-y.
Le mot jacuzzi.
Oh,
qu'est-ce qu'on se sent bien. Qui portait ce nom de famille ?
Alors c'est un nom de famille. Hein.
Oui.
Ne croyez pas que Jacques c'est le prénom et Uzi serait le nom de famille. Non mais on aurait pu.
Bienvenue chez nous, on a bien cet humour-là.
Uzi, si je ne me trompe, c'est un fusil mitrailleur israélien. Donc,
alors c'est pas du tout le cas. Là effectivement c'est une famille jacuzzi, famille italienne. Ils faisaient partie de ces grandes migrations vers les États-Unis au tout début du XXe siècle. 7 frères jacuzzi qui s'installent et qui deviennent paysans aux États-Unis. Mais très vite, la culture ne les intéresse pas forcément. Il y en a deux qui va créer des pompes hydrauliques pour apporter de l'eau pour les plantations.
D'accord.
Et il va se dire... mais
Il s'appelle Candido, c'est
oui,
ça
absolument.
Candido Jacuzzi.
Le prénom est Candido.
Oui.
Et en fait, il s'aperçoit que ces pompes sont très puissantes, évidemment, mais il aimerait bien avoir, peut-être chez lui, à l'intérieur d'une baignoire ou dans un lieu un peu plus intime, une pompe qui permettrait de donner un flot d'eau, mais qui soit reposant, tranquillisant, et notamment pour
mais
son
pourquoi
fils.
Il fait ça, oui.
Ben parce qu'il a un fils qui souffre de graves problèmes physiques et qui aurait besoin de bains rassurants, de bains tranquillisants.
Est-ce qu'il parvient à vanter son jacuzzi ?
Mais oui, il y parvient. Il parvient à faire cela en tout petit module. Et ça va permettre à son fils de vivre quelques années supplémentaires sans trop souffrir.
Donc derrière cette invention complètement détendante et fascinante, il y a l'histoire d'un homme qui se bat pour son fils.
Voilà, et c'est surtout en fait un grand coup de cœur. C'est ça qu'il faut retenir dans l'expérience et le travail de Jacuzzi.
Frédéric Gersal, on découvre tous ces mots dans votre excellent livre « L'histoire étonnante de 101 noms proprement communs ». C'est aux éditions de L'Opportun. Et dans un instant, on imagine la rencontre folle entre Monsieur Sandwich et Madame Melba. Restez avec nous sur RTL.
Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Rendez-vous du lundi au jeudi à 20h sur RTL avec les invités de l'heure du crime. Notre mission, expliquer, décrypter, comprendre les mystères des grandes affaires criminelles qui font la une de l'actualité. Avec les enquêteurs, les magistrats, les avocats, les experts et les archives sonores de la rédaction.
L'heure du crime, présentée par Jacques Pradel, du lundi au jeudi à 20h sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Et si un jour notre nom de famille devenait un nom commun, la classe, non ? En attendant, on découvre ceux qui ont transformé l'essai avec le journaliste Frédéric Gersal. Tiens, à propos d'essai, il y a eu un monsieur rugby, Frédéric ?
Alors, bah non, il n'y a pas eu monsieur rugby, mais par contre, évidemment, il y a un nom propre qui est devenu commun. C'est le nom d'une ville, la ville de rugby, qui sera... Qui va s'opposer, si vous voulez, aux autres villes qui ont des équipes de football. Donc très vite, le football et le rugby vont se séparer. Oui. Mais ça, c'est une très vieille histoire.
Tiens, on fait un coq à l'âne.
Parfois, vous racontez vraiment n'importe quoi
dans cette émission. J'allais dire un mot sympa en disant de la bonnec, ça pourrait être. Vous voyez, si ça devenait un nom commun, la journaliste sympa et travailleuse.
Ah, ouais,
mais je
vais
dire une vacherie du coup.
Non, c'est sympa.
Et pourquoi et pas une fleur ?
Ah oui, la bonnec. Hein, vous la verriez comment cette fleur ?
Bah évidemment pleine de couleurs.
Oh merci.
Oh, c'est joli. Bon, on va rien dire sur le Hugues parce que je pense que ça va mal se terminer. La pêche Melba, ça vient d'où ce délicieux dessert ?
Alors, ça vient de Madame Melba, figurez-vous. Nelly Melba, qui était une cantatrice extraordinaire, très célèbre à l'époque, et qui s'est trouvée à Londres avec en face d'elle, un cuisinier hors pair, un cuisinier qui va lui créer un dessert pour la remercier, parce qu'elle lui a offert deux places pour aller à l'opéra, pour aller voir Lohengrin.
C'est Auguste Escoffier.
Oui,
le grand cuisinier français.
Oui, alors c'est vraiment... Avant Paul Bocuse, qui nous a quittés si récemment, eh bien c'était vraiment la grande signature française.
Mais pourquoi elle s'appelle Melba ? Ça a à voir avec son origine, c'est ça ?
Ah oui, absolument. Elle est née en Australie, à Melbourne. Donc elle a repris le nom de sa ville natale pour en faire un pseudonyme. Nelly, c'est la contraction d'Hélène en anglais. Donc Nelly Melba va enchanter les scènes du monde entier. Et croyez-moi, c'est une cantatrice qui avait la pêche.
Ah, oh. Bon, on a commencé par le dessert, ça c'est tout nous. On a encore de la place pour un sandwich. D'où vient ce nom très commun dans plusieurs langues d'ailleurs ?
Il faut se tourner vers Monsieur Sandwich, Lord Sandwich, John Montagu, quatrième comte de Sandwich.
Là, on s'incline tout de suite.
Grande famille, oui. Ouais, mais alors lui, c'est un passionné de jeu, mais plus que passionné, il est mordu. Il ne sort pas de la table de jeu. Donc son majordome, son cuisinier, se dit, mais il faut bien qu'il se nourrisse, ce grand homme. Donc je vais lui préparer deux tranches de pain. Au milieu, on met une tranche de rôti de bœuf. Et voilà que le sandwich vient de...
Ah, c'est ça la recette du tout premier sandwich. Deux tranches de pain, un peu de bœuf. Il y a quand même du beurre, un truc, la moutarde,
pas
la mayo.
Non, ni de cornichon.
D'accord.
Ça s'est amélioré après.
Oui, après, on a beaucoup...
Parce qu'il en avait marre de manger du pain et du roast beef, donc il a dit, rajoutez-moi des fioritures.
Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'a pas juste donné son nom à un sandwich, à ce casse-dalle qu'on aime bien aujourd'hui croquer, mais aussi à des îles.
Oui, alors c'est-à-dire qu'en fait, cet homme est un homme absolument remarquable en Angleterre. Il est lord de l'amirauté, c'est-à-dire que c'est le ministre de la marine. Donc c'est lui qui prend les grandes décisions, il propose des expéditions, il envoie James Cook découvrir de nouvelles îles. Et que fait Cook quand il découvre ces nouvelles îles ? Il dit, je vais donner le nom de mon mentor. Et voilà comment Lord Sandwich a donné son nom à des îles Sandwich. C'est là que va mourir James Cook, et figurez-vous qu'il a été mangé par les habitants. C'est curieux. Sur l'île Sandwich.
Oui, effectivement, c'est curieux et c'est violent.
C'est un peu ironique.
On le disait tout à l'heure, il y a des destins heureux et d'autres malheureux. Il y a des mots qui sont liés à. Qui sont beaucoup plus négatifs. Vous parliez du monsieur Guillotin, le médecin d'ailleurs, qui a son corps défendant, donne son nom à la guillotine. Lyncher quelqu'un, c'est l'exécuter de façon sommaire. Vous avez en tête l'histoire de monsieur Lynch.
On est en Irlande et là, c'est un personnage assez étonnant. C'est un juge qui va passer par les armes. Tout ce qui lui passe sous la main, et à tel point qu'il n'hésite pas à prendre des sanctions définitives avec tous ceux qu'il passe devant lui. Alors son nom est devenu synonyme de justice un petit peu expéditive.
On a le temps aussi pour une Lolita. On parlait de Mylène Farmer tout à l'heure. On sait qu'elle a lancé Alizée et créé cette chanson Lolita. Lolita, c'était aussi un nom de famille.
Alors oui, c'était le nom d'un personnage de roman, en fait, Nabokov, 1958. Lolita, le grand roman de Nabokov, avec ce personnage d'une nymphète qui
séduit. Plaît à son professeur, c'est
oui,
ça
oui, voilà, c'est ça, un quinquagénaire, je crois, ou quadragénaire, en tout cas, beaucoup plus âgé qu'elle. Et ce personnage va rentrer dans le langage commun pour désigner une jeune fille.
Frédéric Gersal, est-ce que la société, enfin, est-ce qu'on crée encore des noms communs à partir de noms propres aujourd'hui ? Est-ce qu'il y en a des récents ?
Moi, j'ai l'impression qu'il faut laisser la vox populi le faire, c'est-à-dire que c'est le peuple qui décide par lui-même.
Les derniers ça prend date, longtemps, quoi.
Mais ça, je pense que ça prend longtemps. Alors, il y a dans le livre, il y en a un qui s'appelle Bluetooth. Mais évidemment, c'est pas lui.
On a raconté cette histoire.
Non, mais alors c'est un Harald Bluetooth qui est la dent bleue, Bluetooth,
un Viking,
qui est un chef Viking absolument redoutable. Et c'est la société qui va créer le Bluetooth va reprendre évidemment ce personnage comme emblème et donner son nom à ce moyen technologique nouveau. Alors ça, c'est presque de l'involontaire. Hein. Le nom est rentré dans le langage commun. Mais involontairement par rapport
à. On a toutes nos chances, Thomas.
c'est pas gagné. L'histoire étonnante de 101 noms proprement communs publiés aux éditions de L'Opportun. Tiens, ça tape à la porte de la curiosité. Là,
j'y vais.
Il y a un monsieur, oui, vous pouvez ouvrir. Il y a un monsieur Silhouette et un monsieur Poubelle.
Ah oui, dans deux genres différents.
Que du beau monde.
La curiosité est un vilain défaut.
Eugène Poubelle est préoccupé par une notion nouvelle, l'hygiène. À l'époque, c'est Paris qui est une poubelle. Ces 2 millions d'habitants jettent leurs détritus directement sur la voie publique.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Les sœurs Tatin auraient oublié de mettre la pâte avant de mettre les pommes lors de la confection de leur tarte. La délicieuse erreur aurait permis de caraméliser les pommes tout en les cuisant à l'étouffée.
Bienvenue sur RTL, les curieux.
Leurs noms sont inoubliables.
Vous prendrez bien un peu de tarte tatin,
c'est drôle, parce que alors moi, quand j'oublie de mettre de la pâte dans mon gâteau...
Ça donne pas un super dessert.
Non, franchement, il y en a qui sont plus gâtés que d'autres. Hein. Bref, on les utilise tous les jours sans connaître leur histoire. Heureusement, Frédéric Gersal est là.
Oui.
Et alors, j'ai découvert un mot extraordinaire. Moi, il y a un des mots préférés de la langue française, c'est silhouette. Je trouve que c'est gracieux. Rien qu'à le dire, on a l'impression de... Ouais. Voilà, on voit de l'élégance. Et je me suis dit, bon, il y a forcément derrière un grand couturier, un styliste. Ouais. C'était qui? En fait, monsieur ou madame?
Alors, monsieur
Silhouette.
Vous avez raison, monsieur Étienne de Silhouette. Voilà le personnage. En fait, il n'a rien à voir avec la couture ni la haute couture. On est au XVIIe siècle. Donc, on parle couture, bien sûr, mais pas à ce niveau-là. Et en fait, il est fils d'un receveur des tailles. Les tailles, ce sont des impôts.
Oui, c'est pas la taille 38
voilà,
ou
bravo,
rien à voir.
Absolument. Tout à fait. Donc, lui, il traîne.
Merci de pas rire à mes blagues pourries. Vous avez raison.
Il va, je trouve ça délicieux, mais.
Mais j'ai pas le temps.
Non,
merci
vous lui
beaucoup.
Dire qu'elles sont pas bonnes.
Mais
elle
si,
est
mais
avec
si,
moi.
Mais j'ai apprécié. Mais alors, surtout, c'est qu'il va suivre les traces de son père. Et devenir ministre des Finances, lui-même, pour Louis XV. Voilà le poste qui va lui permettre de basculer dans le souvenir.
Alors, donc on est au 18e, au début du 18e, et donc ce monsieur Étienne de Silhouette, contrôleur des impôts, c'est pas parce qu'il est bien roulé qu'il va passer à la postérité.
Ah non, c'est pas pour ça, c'est parce qu'il fait faire des efforts à tout le monde. Figurez-vous, quand il est arrivé au pouvoir, il a ouvert la boîte, celle où il y a tout l'argent, il ouvre et qu'est-ce qu'il y a ?
Il n'y a rien ?
Il n'y a plus rien dedans.
Oh, c'est pas vrai.
Mais ils nous font le coup à chaque fois.
Non, c'est pas vrai, oui,
c'est
on
pas
sait.
Nouveau.
On sait. Alors donc, qu'est-ce qu'il doit faire là, Étienne
Là, il trouve de l'argent. Alors il va d'abord taper chez les fermiers généraux, ceux qui sont les collecteurs d'impôts. Donc là, tout le monde est content, tout le monde applaudit.
C'est pas nous.
Jusqu'au jour où il va s'attaquer au roi, à la cour, aux grands, et demander à tout le monde de fondre la vaisselle pour pouvoir apporter un petit peu de sous.
Et ils réagissent comment, la cour ?
Là, on n'est pas content du tout. Alors, il n'y a pas de mouvement violent. Ce sont juste des mots qui se passent comme ça, et des dessins, surtout.
On se moque de lui, c'est ça ?
On se moque d'Étienne de Silhouette en le dessinant avec un seul trait, comme une silhouette, parce que vous n'avez plus d'épaisseur, plus d'argent dans les poches, plus de quoi vous acheter un beau costume.
C'est une histoire géniale, ça. Et il l'a su de son vivant que son nom devenait commun.
Alors du coup, on disait, passe-moi une silhouette. Alors on passait un dessin avec qui traînait un peu dans la boule, pouvoir en place, notamment Louis XV et son ministre des Finances.
Alors plus connu, alors tout aussi en poilier, la poubelle. Hein, la poubelle, elle est féminine dans notre langue, mais son porteur ou son inventeur, si j'ose dire, il est masculin. Ouais. Que faisait Monsieur Poubelle dans la vie, Frédéric Gersal ?
Alors Eugène René Poubelle est rentré dans la préfectorale. Il a suivi un petit peu les traces de son père aussi. Et alors, il a été nommé préfet dans plusieurs endroits et il est devenu préfet de la Seine, préfet de Paris. Et là, il décide, il prend un arrêté l'année suivante de son arrivée, c'est-à-dire en 1884, un arrêté qui demande aux propriétaires des immeubles de mettre à disposition des habitants plusieurs boîtes différentes pour pouvoir faire un tri sélectif des ordures.
Attendez, mais c'est parce que c'est vrai qu'à l'époque, déjà, on l'a entendu dans la mise en onde de Sébastien Duduit, qu'on jetait ces déchets comme ça dans la rue, il n'y avait rien.
Depuis le Moyen-Âge, et on se souvient que les premiers éboueurs, c'était les chiens et les cochons qui étaient laissés en liberté dans les rues des grandes villes. Et bien là, il fallait résoudre ce problème, surtout qu'on commençait à avoir des emballages qui ne pouvaient plus être détruits par les chiens ou d'autres animaux. Donc il fallait faire un tri. C'est ce que propose, c'est ça qui est révolutionnaire, c'est ce que propose Poubelle.
Mais oui, moi je connaissais l'histoire du préfet Poubelle, mais je ne savais pas que c'était un visionnaire qui avait proposé, inventé le tri sélectif. Est-ce qu'il a été suivi? Est-ce que les propriétaires sortaient trois poubelles
Alors bah non, trop cher, si on pouvait évidemment faire des économies. Donc en fait, on passait le matin avec le clairon, il y avait une voiture à cheval, et puis on ramassait comme cela les poubelles. Et de son vivant, son nom est devenu un nom commun.
Ah, on a appelé ça rapidement la poubelle.
Oui, à son grand dam d'ailleurs, hein, parce que évidemment, c'était pas synonyme de gaieté, et de, même si c'était de la propreté.
Oui, on était dans une grande période qu'on appelait, si je ne me trompe, l'hygiénisme.
Absolument.
Ça rejoint aussi les travaux du baron Haussmann, on est à cette période de notre histoire.
À l'époque où effectivement, on commence à libérer Paris, à aérer Paris, avec des espaces verts et des grandes avenues, des grands boulevards et non plus des toutes petites rues.
Et puis c'est aussi l'occasion de découvrir des grands personnages derrière ces noms dans ce livre passionnant que vous publiez, Frédéric Gersal. L'histoire étonnante de 101 noms, vous avez vu, il en reste encore à découvrir proprement. Commun, c'est aux éditions de L'Opportun. À très bientôt, j'espère, au micro d'Agri.
À bientôt, merci.
Vous écoutez RTL.